Les traces de ce que l'on a été dans l'enfance, de la manière dont on a été socialisé, perdurent même quand les conditions dans lesquelles on vit à l'âge adulte ont changé, même quand on a désiré s'éloigner de ce passé, et, par conséquent, le retour dans le milieu d'où on vient, et dont on est sorti, dans tous les sens du terme, est toujours un retour sur soi, et un retour à soi, des retrouvailles avec un soi-même autant conservé que nié. Affleure alors à la conscience, en de telles circonstances, ce dont on aurait aimé se croire libéré, mais dont on n'ignore pas que cela structure notre personnalité, à savoir le malaise produit par l'appartenance à deux mondes différents, séparés l'un de l'autre par tant de distances qu'ils paraissent inconciliables, mais qui coexistent néanmoins dans tout ce que l'on est. Chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite la bienvenue et vous propose de tendre l'oreille pour écouter Transfuge. Est-ce que vous vous souvenez des petites fiches que vous deviez remplir pour chaque professeur, de chaque discipline, chaque année, où il fallait parler de vous, de vos passions, du métier que vous vouliez faire, mais surtout, surtout, du métier de vos parents? Encore aujourd'hui, dans les études supérieures, c'est une question presque indispensable lorsqu'on rencontre de nouvelles personnes. À l'ENS, il s'agit presque toujours des mêmes réponses. Parents profs, parents chercheurs, parents ingénieurs, parents journalistes, parents médecins. Autrement dit, parents cadres, si on se fie à la catégorie socio-professionnelle de l'INSEE. Et si vos parents ne font pas partie de la longue liste de métiers de cadres et professions intellectuelles supérieures, on vous regarde avec curiosité, étonnement et, dans le pire des cas, un peu de mépris. La sociologie vous appelle les transfuges de classe. Vous quittez un milieu pour en trouver un autre, nouveau, aux codes sociaux différents, inédits. L'ENS est-elle pour vous synonyme de doute et de peur, ou de découverte et de refuge? Comment se sentent les enfants d'ouvriers, d'employés, d'agriculteurs ou encore de commerçants? Qui sont-ils? Qui sont les transfuges? Aujourd'hui, c'est Siao qui fait répondre à mes questions. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter en nous donnant ton statut au sein de l'ENS, donc si tu es élève, étudiant, etc., ton niveau, donc si tu es en M1, M2, et ta discipline, s'il te plaît?
Ok, pas de soucis. Du coup, je m'appelle Siao. Je suis normalien étudiant à l'école normale à Paris-Saclay. Je fais de l'économie en master, en première année, dans un master économie, organisation et société. Et voilà.
Et pour essayer de comprendre qui tu es socialement, j'ai quelques questions qui ont l'air anodines, mais que j'aime bien poser. Où est-ce que tu as grandi?
Alors j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, tout d'abord à Saint-Denis, puis à Pierrefitte-sur-Seine, juste la ville à côté en fait, et j'y vis toujours.
Est-ce que tu es déjà allé à l'étranger, et si oui, combien de fois?
Alors je suis déjà parti en Chine plusieurs fois, pour voir mes grands-parents. Une fois à mes 9 ans, une fois à mes 11 ans, puis une fois à mes 18 ans. Et après, récemment, j'ai été en Grèce et en Espagne.
Est-ce que tu as déjà fait du ski?
Alors j'ai fait du ski une seule fois, c'était à la fac, c'était ma première fois au ski, c'était pas facile.
T'avais quel âge quand tu es allé au musée pour la première fois?
Pour être honnête, je pense que c'est dans un cadre scolaire. Peut-être le Louvre quand j'étais au collège, ou quelque chose comme ça. J'ai pas vraiment de souvenirs, en vrai.
Est-ce que tu as déjà sauté une classe? C'est oui, combien?
J'ai sauté aucune classe.
Et c'était quoi ton livre préféré quand tu étais enfant?
Je lisais pas quand j'étais enfant. One Piece. Pourquoi pas? Et même encore, j'étais plus animé que manga. Donc, pour être honnête, pas vraiment de livre, en vrai.
Bon, maintenant que les questions faciles sont passées, autant continuer avec la question qui fâche. Qu'est-ce qu'ils font comme métier, tes parents?
Alors, mon père ne travaille pas actuellement. Et ma mère travaille dans la restauration. Elle travaille au bar. Mon père a toujours travaillé a toujours été manutentionnaire. Un peu chauffeur aussi.
Et du coup, pour l'un comme pour l'autre, c'est-à-dire pour ton père, quand il était encore dans la même intention, tu sais à quel CSP, donc quelle catégorie socio-professionnelle ça correspond?
Bah comme c'est moi qui remplissais tous les papiers, il me semble que ma intentionnaire c'est ouvrier.
Et ta
Et ma
mère?
mère c'était employée, il me semble. Je peux faire une erreur.
Et maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, je voulais tout simplement te demander comment tu te sens dans l'environnement ENS?
Bon, pour être honnête, ça va, je me sens plutôt bien. Après, très peu de cours en semaine, donc c'est assez. C'est assez difficile de dire comment je me sens parce que je vais en cours. Je prends 2 heures pour y aller déjà. Et ensuite, je suis mes cours et je rentre chez moi, quoi. Pas vraiment d'interaction sociale avec les gens du campus, à part mes camarades de promotion. Donc, je ne savais pas quoi dire, mais j'adore mon master, j'adore mes cours, j'adore ma formation, j'adore être à l'ENS. Même parfois pour me balader. Mais ouais, plutôt positif.
Et du coup, je me demandais, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu faisais avant l'ONS, donc si tu as fait une prépa, une fac, ou dans quelle discipline? Et d'une part, à quel point l'ONS, c'était ton but absolu ou pas? Et à quel point, sur une échelle de 1 à 10, tu pensais que tu aurais l'ONS?
Et du coup, j'ai fait un bac S. J'ai fait un bac S à Saint-Denis, au lycée Fugère. Et moi, de base, je voulais pas du tout faire des sciences humaines et sociales. Je voulais faire un DUT informatique. Je voulais devenir informaticien parce que ça m'intéressait. J'aime bien programmer. À l'époque, il y avait encore ce qu'on appelle la spécialité informatique et sciences du numérique. Donc, j'adorais ça. Mais à côté, j'avais aussi des bonnes notes en humanité, c'est-à-dire en histoire géo, en philosophie, etc. Et ma prof de philosophie m'a proposé, en mars, un peu tard quand même, mais de passer à ce qu'on appelle les conventions d'éducation prioritaire pour Sciences Po Paris. Et avec les cours supplémentaires, les cours de soutien, etc. Et franchement, j'adorais ça. Et je me suis dit pourquoi pas faire une histoire géo en fait. Bon, finalement, j'ai pas été pris à Sciences Po, malgré l'admissibilité, j'ai fait l'oral. Et du coup, je cherchais quoi faire en fait. Et je pense que c'était assez difficile de dire à mes parents, oui, je veux faire une histoire géo. Je pense qu'ils ne comprendraient pas que je fasse des études littéraires en fait. Du coup, je cherchais quelque chose d'entre deux, c'est-à-dire que je puisse faire de l'histoire géo tout en ayant une route de sortie, j'ai envie de dire. C'est pour ça que j'avais postulé à ce qu'on appelle des classes préparatoires BL. Tu avais des mathématiques, de l'économie, de la sociologie et à côté de l'histoire géo. Donc j'ai fait ça à Melun, j'ai pas fait l'année complète parce que j'avais de grosses difficultés. C'était assez difficile de passer d'un lycée de banlieue quand même à une ambiance de prépa, enfin tout simplement où il y a peu de mixité sociale, où t'as du mal à te faire des amis quand tu viens de ce genre de milieu. Et au final, bon, j'ai abandonné. Je me suis réorienté en double licence économie-géographie. Alors pourquoi la géographie? J'adorais la géographie, mais je voulais l'ajouter à quelque chose hein, pour me dire, ah. Un peu comme en terminale, je voulais rajouter l'histoire géo à quelque chose. Donc, fait de l'économie et de la géo, et au final, j'ai laissé tomber la géographie. Et j'ai fait de l'économie maintenant. Mais en tout cas, j'ai adoré ma formation et je voulais faire de la recherche. Donc, j'ai postulé un peu partout, des masters de recherche un peu partout, que ce soit sur Paris ou même en province. Et j'avais déposé un dossier à l'ENS Paris-Saclay avec un projet de recherche. Pour t'avouer, je m'y attendais pas du tout à être pris, surtout en liste principale. Pour la note, je dirais que. Enfin, je pense que j'avais un bon dossier, j'avais des bonnes notes, j'avais un bon projet. Mais est-ce que c'était excellent? Je sais pas. Je pensais que j'avais une petite chance, mais il fallait vraiment avoir cette chance, quoi. Enfin, donc, mon petit 5 sur 10, je sais pas. Peut-être 4.
Et parce que du coup, tu disais que tu as postulé à plein d'autres masters de recherche à Paris et ailleurs. À quel point tu voulais celui de l'ENS Saclay plus que les autres?
Pour être honnête, c'était un peu un bonus. C'est-à-dire, je m'attendais à rien. Et au final, j'ai été pris et je suis super content, quoi. Mais vraiment, c'était pas l'objectif, quoi.
L'ENS est considéré comme une réussite sociale et intellectuelle pour beaucoup, mais comme toute victoire ou tout succès, il y a souvent beaucoup d'échecs de tout type avant. C'est quoi l'échec, qu'il soit scolaire ou pas, hein, qui t'a le plus marqué et qui t'a le plus permis d'avancer et ou de rebondir?
Je regrette un peu de ne pas avoir bien bossé au lycée. Je pense que, en même temps, c'était assez compliqué parce que j'avais plein de choses à côté. Mes parents ne parlent pas français, c'est moi qui devais faire les trucs administratifs, quoi. Et à côté, j'avais pas forcément ce temps-là, mais peut-être, hein, qui sait, en fait. C'est pas vraiment un regret. Peut-être quand on m'a refusé à Sciences Po, je savais que j'étais pas cet excellent élève. Mais je pensais vraiment qu'ils ne recrutaient pas vraiment sur le côté académique. Après, j'aurais peut-être échoué à Sciences Po aussi, hein, qui sait. Mais ça m'a permis de rebondir quand même, de me dire que je peux rentrer en classe prépa, que je peux essayer.
Donc du coup tu dirais que par rapport à ton échec de pas être enfin de pas avoir réussi Sciences Po, c'est pas le fait de pouvoir quand même aller en prépa, un peu une forme de revanche.
Forme de revanche, je sais pas, mais me dire que je vais faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, qui, enfin, dans ma classe, très peu de gens allaient en prépa, quoi. Enfin, tout le monde avait un peu peur, tout le monde savait que c'était très difficile, tout le monde voulait un peu éviter ça, quoi. Enfin, par exemple, dans ma classe de terminale S, on a été deux à partir en prépa, et on a été deux à avoir échoué.
Je rebondis sur quelque chose dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de ne pas réussir à aller au bout de ta première année de prépa afin de partir à ce moment-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu considères comme un échec?
Ça peut être considéré comme un échec, mais j'ai l'impression qu'en l'espace de 6 mois, j'ai appris tellement de trucs, j'ai appris tellement de choses que j'ai même l'impression d'avoir plus appris en 6 mois que pendant mes 3 années de double licence. Que ce soit en termes de méthodo, en culture G, enfin c'est impressionnant. Enfin, j'ai raté, mais j'ai pas l'impression d'avoir échoué, et c'est pour ça que je ne l'ai pas évoqué. J'ai l'impression d'avoir beaucoup grandi grâce à la prépa.
Et une fois à l'ENS, qu'est-ce qui t'a fait le plus ressentir que tu venais d'un milieu social différent?
J'ai une anecdote assez marrante. En gros, premier jour de rentrée, notre responsable de formation nous demande un peu les sujets de recherche qu'on voulait un peu travailler. Moi, j'avais déjà mon sujet parce que j'avais soumis un projet de recherche pendant ma candidature, etc. Elle nous propose des directeurs de mémoire. La prof cite en fait un chercheur qui s'avère en fait être le père de l'un de mes camarades. C'est assez marrant quand même. Donc moi j'étais en mode ok. Moi au début je savais pas, mais c'est quand on a discuté dans la RER, il m'a dit mais tu sais, c'est mon père en fait. Donc assez marrant.
Ouais, à ce moment-là, tu te rends compte que c'est pas la même.
Ouais, c'est ça,
Ouais, pas les mêmes vies, pas le même.
c'est.
Pas le même environnement de. Ouais, pour grandir, etc.
Oui, c'est ça. Enfin, bon, c'est une anecdote marrante, je trouve. Donc,
Est-ce qu'il y a eu d'autres moments où. Certainement que ce soit marrant ou même. Enfin, juste des. Certainement que ce soit une anecdote précise, mais des. Je sais pas, des codes ou des. Une sensation de. Truc de dire, mais est-ce que, enfin, qu'est-ce que je fais là et est-ce que je suis à ma place et un sentiment de décalage? Est-ce que c'est des choses que tu as pu ressentir?
Je me suis déjà senti pas au niveau, notamment en anglais. Je trouve que c'est impressionnant le nombre de personnes qui sont en fait juste trop forts. J'ai l'impression qu'ils ont tous et un. Ils ont tous un niveau. Alors que moi, je galère avec mon petit anglais. Et surtout, la différence, c'est que pendant ma double licence, en première année, on n'avait pas de cours d'anglais, c'était en ligne. Donc pas de prof en fait, on parlait à un robot. En deuxième année, on avait une prof d'anglais, donc ça allait, mais en troisième année, on n'avait pas d'anglais. Donc j'ai pas fait beaucoup d'anglais pendant mes 3 années de licence, enfin double licence, Et quand je suis arrivé à l'ENS, c'est vrai que ça m'a mis un peu une petite claque.
Et du coup, un peu dans la même lignée, pour toi, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est et est-ce que ça te parle?
C'est vrai que parfois, tu as l'impression de ne pas être à ta place, d'avoir peur de ne pas être au niveau en fait. Quand tu rends quelque chose et que tu te dis, bon, c'est pas assez bien, les autres vont rendre quelque chose de mieux que moi, j'ai beau essayer, ce sera pas parfait quoi. Enfin, ça m'est beaucoup, ça m'est déjà arrivé, que ce soit même en classe prépa, en double licence et même aujourd'hui. Mais je pense que la bonne solution, c'est d'avoir un petit ego, de dire j'ai mérité ma place. Et, enfin, lors de mes candidatures de master, je me suis jamais auto-censuré, je me suis jamais dit que si j'arrivais à l'ENS, ça va être catastrophique. Et, enfin, c'est aussi pour ça que j'ai postulé. Enfin, je me suis toujours dit qu'il fallait éviter cette auto-censure et il fallait y aller tenter.
Et justement, comment tu fais pour lutter contre ce syndrome d'imposteur? Comment tu fais pour croire en toi, en tes capacités? Parce que là, tu parlais d'ego. Comment tu fais pour booster ton ego, pour ne pas t'auto-censurer? Est-ce que tu as des techniques, des méthodes, des choses qui t'aident ou qui te font du bien?
Je pense que je suis passionné d'économie, ce qui fait que je lis beaucoup sans me rendre compte des articles. Donc j'ai plein de références. Enfin, c'est un de mes potes qui m'avait fait cette remarque. Il me disait, mais en fait, t'es passionné par ça. Et, donc c'est ça qui m'aide beaucoup. Et, en fait, quand par exemple je réponds à quelque chose et je sais, ça me fait sentir que ça va, je pense que j'ai le niveau et que, enfin, contrairement en classe prépa où justement je connaissais vraiment rien du tout, je parlais de littérature tout à l'heure, mais quand je suis arrivé en classe prépa, je connaissais pas Balzac, quoi. Enfin, je connaissais pas Stendhal, Rouge et le Noir, j'en avais aucune idée de qu'est-ce que c'était. Là, ça va, j'arrive armé. Donc, il y a moins de sentiments et ça me permet un peu de combattre ce syndrome de l'imposteur.
Comment est-ce que ta famille vit le fait que tu sois à l'ENS? Est-ce que tes rapports avec ta famille ont changé depuis que tu es à l'ENS?
On va dire, c'est comme d'habitude. Au début, ils ne comprenaient pas trop qu'est-ce que c'était un normalien. Ensuite, mon père, il allait sur Internet pour voir qu'est-ce que c'est. Il me disait, mais du coup, t'es payé ou t'es pas payé? Je comprends pas. Du coup, il y avait un peu d'incompréhension au début, on comprenait pas vraiment qu'est-ce que c'était. Et ok, c'est une bonne école, mais tu finis prof en fait, tu vas finir à 1400. Donc il y avait une petite incompréhension, ça, ils ne connaissaient pas forcément. Et après, aujourd'hui, on en parle rarement, donc, comme d'hab, j'ai envie de dire, comme avant, juste au début, des questionnements, et ensuite, maintenant, il me laisse faire mes études, et voilà.
Enfin, est-ce que tu pourrais parler d'un modèle, d'une personne qui a été là pour toi ou qui t'inspire et qui te donne envie de croire en tes objectifs et peut-être d'être toi-même un jour un modèle pour quelqu'un d'autre?
Je pense, je suis pas un produit de la méritocratie. Je pense que j'ai eu de la chance. J'ai eu la chance de croiser quelqu'un sur mon chemin. C'est quelque chose que j'avais lu. C'était Chantal Jacquet, qui la transclasse ou la non-reproduction, qui parlait de ça. Parfois, tu as juste de la chance de croiser la bonne personne. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un professeur de philo qui m'a guidé un peu. Sinon, aujourd'hui, je serais informaticien ou développeur ou quelque chose comme ça. Donc, ça m'inspire et c'est pour cette raison aujourd'hui que je fais mon stage pédagogique dans mon même lycée. J'ai envie d'être cette personne qui va aider enfin, qu'un élève croise mon chemin et que je le guide en fait, témoigner entre guillemets. Leur dire aussi que des élèves de banlieue peuvent très bien réussir. Parce que c'est vrai, c'est pas parce que tu viens du 93 ou autre que, enfin, t'es voué à l'échec dans le supérieur, quoi. Même si c'est très dur, c'est vrai. C'est vrai que un très bon élève d'un lycée du 93, un élève moyen à Paris, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a une très grosse marge de progression et qu'il y a du potentiel. Et justement, j'essaye de parler à ces élèves-là, les motiver à entreprendre de bonnes études et de voir qu'est-ce qui leur plaît, etc., etc.
Et là, merci beaucoup pour t'avoir répondu à mes questions. Vous venez d'écouter Transfuge, une émission produite par Marie Bremer et diffusée sur Transistor.